J'aimerais réfléchir avec vous, et bien sûr en nous plongeant dans la Bible, sur le Saint-Esprit et notre état intérieur. Il s'en passe des choses en nous, non? Oh là là. Voilà. Il s'en passe des choses. Et sur ce, je vais me baser sur la première épître de Jean au chapitre 2. Nous lisons ceci. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est vraiment parfait. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes amis. L'idée qu'il demeure en lui marchait comme le Seigneur marchait. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris, et ceci est vrai pour lui et pour vous, car les ténèbres passent et la lumière brille déjà, véritable lumière. Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. À quoi devrait ressembler notre vie spirituelle, celle qui est à l'intérieur de nous? Eh bien, la notion qui revient souvent chez Jean, l'évangéliste et l'apôtre, eh bien, c'est qu'il devrait y avoir une communion, vous savez, une connexion, un lien très fort. D'ailleurs, il est dit que Jean et son enseignement n'a jamais été aussi plus proche et plus transmetteur que celui de son maître Jésus. Nul n'a mieux transmis les enseignements de Jésus. Le lien entre, dans l'Évangile aussi, le cep et les sarments, cette notion de communion, cette notion de connexion avec Dieu. Et en réalité, c'est le Saint-Esprit qui est à l'origine de cette vie intérieure. Il est invisible. On ne le voit pas. Il est discret. Il est puissant. Il est notre réalité dans l'expérience que nous avons faite avec Dieu. Et cette vie intérieure va se manifester de maintes manières. Le Saint-Esprit nous pousse à l'amour, à vivre dans la lumière, à marcher avec le Seigneur, à embrasser ce nouveau commandement qui est celui d'aimer. Nos objectifs changent quand nous nous convertissons. Nos sentiments changent, nos priorités changent. Et vis-à-vis du péché, bien sûr, notre manière de voir le péché change. On ne peut plus prendre plaisir aux œuvres des ténèbres. Nous considérons maintenant les choses selon Dieu. Mon frère, ma sœur, lorsque tu as rencontré Jésus, je ne sais pas de combien de temps ça date, peut-être des années, peut-être des décennies. Tu as dû normalement vivre un bouleversement intérieur. Parce que ce Dieu inconnu, dont on a parlé ce matin, majestueux, infini, tout-puissant, eh bien, restait inconnu. Et quand tu l'as rencontré, il est devenu cet ami intime. Il y a là un miracle, non? J'espère que ce que la Bible nous dit, ce que nous avons entendu ce matin, qui a été rappelé par Philippe, j'espère que cela nous secoue. Toutes les paroles que l'Esprit de Dieu adresse dans nos cœurs doivent servir à découvrir davantage ce grand Dieu d'amour. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu. Si nous gardons ses commandements. Nous allons parler de trois personnes, trois hommes ou trois femmes qui disent, qui prétendent, qui affirment des choses et qui démontrent que leur état intérieur n'a pas été bouleversé par Dieu. Nous avons celui qui vit dans l'état de mensonge, l'esclavage, l'esclave du mensonge, l'esclave de la tiédeur et l'esclave de la haine. Alors, qui est-il celui qui est esclave du mensonge? Jean nous le dit. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. C'est dur, non? Et ce qui me rassure, c'est que Jean n'est pas un légaliste. C'est pas quelqu'un qui est, voilà, obtus, mais quelqu'un qui a un cœur ouvert. Et son désir, c'est que nous reconnaissions l'amour de Dieu et que nous le vivions en conformité. La parole de Dieu nous dit qu'il doit y avoir une cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. C'est ce que Philippe a lu dans 1 Jean 3. Celui qui dit « Je l'ai connu ». Voilà un homme qui a une belle affirmation. Il a connu Dieu. On peut comprendre qu'il affirme qu'il a rencontré Dieu. Il peut donner son témoignage. Il peut dire « J'ai invité Jésus dans ma vie », comme on l'entend parfois. Peut-être que cet homme, certainement, va à l'église. Il chante, il prie, il soutient des œuvres. Il s'est même détourné des idoles de sa vie. Son langage a changé. Il a même pris peut-être place au milieu de nous. Il dit qu'il a un lien étroit avec Dieu. Mais il y a un mais. Cet homme se trompe. Et il se trompe lourdement sur lui-même, sur Dieu et sur les autres. Pourquoi ? Parce qu'il ne garde pas ses commandements. Il sait ce que Dieu veut. Le Saint-Esprit est là pour l'éclairer et l'interpeller. Mais cet homme ne se soumet pas à Dieu. Il reste esclave de quelque chose qui l'empêche de vivre pleinement sa vie spirituelle. Et que dit Jean, l'apôtre de l'amour ? Il dit, cet homme-là est un menteur. Oh ! Cet homme est un menteur. On peut le voir peut-être rougir lorsque Jean l'apôtre lui parle. Il y a le deuxième. Celui-là est esclave de la tiédeur. Jean le dit au verset 6, « Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher comme lui, le Seigneur, a marché. » Voilà un autre qui déclare que lui et Jésus sont inséparables. Il déclare demeurer en lui. La première question que les disciples ont posé, les premiers disciples à Jésus dans l'évangile de Jean, étaient « Rabbi, où demeures-tu? Où habites-tu? Parce que nous voulons ne plus être séparés de toi. » C'est quelque chose, hein? Ne plus être séparé de l'être que l'on aime. Et tous les jours, pendant 3 ans, ils vont entendre Jésus. Ils vont le voir. Ils vont manger avec lui, ils vont partager, ils seront inséparables. C'est pourquoi on peut comprendre la tristesse des disciples lorsque Jésus leur dit « Je vais m'en aller ». Ah bon ? Mais on va donc se séparer ? Tous les jours, ils ont marché à ses côtés. Vous savez, c'est comme une randonnée. Moi, quand je faisais des camps, j'aimais bien les randonnées. Parce que c'est une occasion de marcher et de parler cela seul. On parle beaucoup dans les randonnées, hein. Après, on s'étonne qu'on est fatigué, hein. Eh oui, on discute, on se livre. La question de la marche est souvent utilisée dans la parole de Dieu. Cette marche veut dire vivre en proximité. La marche par l'esprit, c'est laisser l'esprit nous diriger, le laisser nous mener, vivre comme. Ça veut dire que quand nous marchons avec quelqu'un, nous marchons au même rythme. Je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui est à 10 mètres derrière moi ou à 10 mètres devant moi. Le même rythme. Nos pas sont au pas du Seigneur et les pas du Seigneur sont au rythme de nos pas. C'est une manière d'être imitateur de Jésus. Nous marchons comme lui a marché. Nous l'imitons. Les sentiments qui étaient en Jésus sont-ils maintenant en toi, en moi, sont-ils encore en nous? Et parfois, quand je regarde ma propre vie, je me dis, mais où est cette paix que le Seigneur me promet? Où est cette douceur qui découle de son caractère et cette patience? Où se trouve dans mon cœur la compassion pour les autres? Comme dit Paul aux Galates, où est votre joie? Oh, pas évident, les sentiments qui étaient en Jésus. On parle souvent de Jésus qui souffre, souvent de Jésus qui enseigne, mais il avait quand même un sentiment à l'intérieur de lui, ce sentiment de paix. Voilà un homme qui dit, qui déclare demeurer en Jésus et qui n'est pas imbibé de ce sentiment de paix. Jésus, avant de quitter ses disciples, n'aura pas dit « Je vous laisse la paix, je vous laisse ma paix ». Comme nos caractères sont bien loin de cela quand même. Eh oui, et n'est-ce pas justement parce que dans notre marche, nous montrons une certaine tiédeur, nous ralentissons, ou nous vagabondons, ou alors nous décidons de faire une pause. Alors moi j'ai remarqué quelque chose, certainement vous, vous allez me le confirmer, dans les randonnées, ceux qui sont les plus fatigués, ce sont ceux qui sont derrière. Ils traînent, après ils doivent récupérer le retard, et c'est curieux quand ils arrivent que le groupe les attend, que fait le groupe? Le repart. Et que font ceux qui arrivent? Ben, ils se reposent, ils sont fatigués. Et ainsi, ils ne marchent pas au même rythme. Et à la fin de la randonnée, ce sont les plus fatigués. À distance se crée quand nous ne marchons pas au même rythme. Mais quand nous ne marchons pas au même rythme du Seigneur, eh bien, c'est que nous sommes liés par cette tiédeur. Et voilà un troisième. Alors lui, c'est l'esclave de la haine, le lien de la haine. Ah là là. Que dit Jean? Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Frères et sœurs, je tremble quand je lis ce type de verset. L'apôtre Jean est l'apôtre qui parle le plus de l'amour. Pensez-vous qu'il a connu la haine? Non, jamais, il est né comme ça, tranquille. C'est un esprit doux et calme, Jean. Avons-nous oublié l'histoire des villages samaritains? Jésus passait, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, et les villages et les samaritains ne veulent pas recevoir Jésus. Ah non, non, pas lui. Les disciples, ils étaient quand même déçus. C'est quand même le maître, il fait des miracles. Vous pourriez au moins le recevoir. Une délégation, hein? Et que disent-ils? Jacques et Jean, les deux frères, ils viennent voir Jésus avec une super idée. Seigneur, envoie le feu du ciel. Rien que ça. Le feu du ciel. S'il y a bien quelqu'un qui sait ce qu'est la haine, c'est bien Jean. D'ailleurs, Jésus appelle Jacques et Jean les fils du tonnerre. Hein? Bam. Bon, ils sont du sud, hein? Le temple du Saint-Esprit que nous sommes, ce temple-là peut-il laisser une place à la haine? Je ne peux pas répondre à cette question pour les autres. Nous sommes seuls à répondre de cette question devant Dieu. Celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche, non dans l'esprit, mais il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Voici donc notre homme qui prétend être libéré et dans la lumière, tout en cultivant la haine. Cet homme peut être un Saul de Tarse. Vous savez, Saul de Tarse, il était efficace. Hein, le Sanhédrin lui avait donné l'autorisation de faire tout pour la gloire de Dieu. Il marchait dans la lumière, il voulait empêcher les autres, les chrétiens, de tomber dans les ténèbres. Il prétendait être du côté de Dieu, du côté de la lumière. Mais en réalité, il dit lui-même qu'il était bien aveugle. Aveugle de ne voir ni son frère, ni Dieu, ni lui-même. Aveugle dans son état spirituel. Oh, mais pas seulement aveugle. Que dit Jean ? Jean au chapitre 3, verset 15 dit « Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. » Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ces paroles sont dures, n'est-ce pas ? Cela nous montre combien la vie de l'esprit en nous ne doit pas être négligée. Le Seigneur gardait mon frère. Cela va pas.
Ça marche mal, hein?
De ressasser. Et l'amertume qui peu à peu prend racine. Et cette racine produit la haine. Il n'y a pas seulement les paroles de Jean qui nous éveillent à cette question. Il y a Jésus. Le maître a dit, quiconque se met en colère contre son frère sera passible d'un bon savon. Non, du jugement. Mais moi je vous dis, vous avez entendu dire que les anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère, oui Esther, en colère, contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère, imbécile, imbécile, sera passible du Sanhédrin. Et Jésus ajoute, celui qui dira insensé sera passible de la géhenne de Dieu. C'est chaud, hein? Déjà, la géhenne, c'est chaud, là, c'est vraiment chaud. C'est le Seigneur qui le dit. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il sait que le terrain est glissant. On commence avec de bonnes raisons, et le terrain est glissant. 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes alors bouffés d'oxygène, en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus qui purifie tout péché, c'est le sang de Jésus qui nous purifie tout péché. Voilà donc trois états intérieurs dont la Bible nous met en garde. Attention à ne pas être lié par le mensonge, à ne pas être tenu par la tiédeur et de ne pas être esclave de la haine. Voilà trois hommes qui pensaient connaître, qui affirmaient, mais qui étaient loin de pratiquer les commandements, de marcher comme le Seigneur et d'être eux-mêmes dans la lumière. Je ne sais pas, mais est-ce que peut-être on est repris par un de ces trois personnages ? Or, si c'est le cas, j'espère que ce n'est pas parce qu'un simple et pauvre homme vous parle, mais que ce soit le Saint-Esprit. Ça, c'est le plus important. Et Et tu sais, pour être capable d'entendre, il faut être capable d'écouter. Et pour cela, c'est merveilleux le dimanche matin parce qu'on est assis et on écoute. Bon, des fois, quand l'heure dépasse un peu, on supporte. Hein, je dis qu'il faudrait, vous savez, une sorte d'ouverture en dessous de la chair qui s'ouvre à 11h25. Voilà, ça va, on a encore un peu de temps. Et pour être capable donc d'entendre, eh bien nous avons fait quelque chose. Nous avons arrêté nos occupations. Nous nous sommes réunis et nous avons pris quelque chose qui est très cher. C'est le temps. Un esclave ne passe pas son temps à écouter ce que son maître dit. Il passe son temps à faire. C'est son boulot d'esclave. Mais un enfant passe du temps à ce que ses parents disent. Loin des bruits de ce monde, le Seigneur nous invite à prendre du temps. On est tellement, Philippe l'a dit, envahi par les vacarmes des médias. Vous savez, c'est sans cesse, hein. S'il n'y a pas une affaire, il y a une autre, s'il n'y a pas une autre affaire, il y a etc. Hein, et ça ne s'arrête pas. Les distractions sont nombreuses. Télévision, ordinateur, téléphone portable, CD pour les plus anciens, cassette pour les plus anciens, ou autre support. Nous avons besoin, mon frère, ma sœur, de nous arrêter dans nos vies. Parce que c'est une course perpétuelle qui fait que nous oublions notre vrai privilège et nous nous enlisons dans des liens. Nous avons besoin que notre vie intérieure fasse taire tous ces bruits et être à l'écoute de l'esprit. Et là, nous avons quelque chose de très important. C'est de prendre du temps avec le Seigneur, si nous voulons que le Saint-Esprit nous parle, en semaine. Ce temps est plus que précieux. Au verset 7, d'ailleurs Jean le dit, c'est la parole que vous avez entendue. Et pour ne pas l'oublier, il faut y revenir. Et cet Esprit de Dieu qui vit en nous, il ne s'agit pas d'une force vague. Il s'agit d'une voix claire. C'est lui qui a inspiré la parole. C'est lui qui est l'auteur de la Bible et qui nous poussera à obéir. À son écoute, il nous fait changer nos réflexes d'esclaves par des sentiments d'enfants bien-aimés. Alors, pour ne pas être réduit à l'état d'esclavage, que devons-nous méditer? Eh bien, c'est ce que dit l'apôtre Paul, Galates 4. Versets 4 à 7. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ce qui était sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Parce que vous êtes des fils et des filles, c'est moi qui l'ai ajouté, hein. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier, héritière de la grâce de Dieu. Qui connaît ce passage? Combien de fois l'avons-nous entendu? Ouf! Un paquet de fois, hein? Eh bien, ce que dit le verset ici, c'est que nous ne sommes plus des esclaves, mais nous sommes ses enfants. Réalisons-nous ce que Paul dit? Nous ne sommes plus des esclaves coupés de Dieu. Nous sommes ses enfants. Il nous a choisis pour que nous soyons ses enfants. Nous pouvons dire à Dieu, Papa, c'est le terme le plus intime, le plus familier, le plus fort. Dans les jours des grands désespoirs, tu peux dire à Dieu, tu es mon papa. Je ne sais pas comment vos parents vous ont éduqué. Est-ce que c'était au mérite? Je t'aime parce que tu mérites. Et ça crée la compétition. C'est terrible. C'est destructeur. Dieu ne joue pas au mérite avec nous. Parce qu'on perdrait tout de suite. Hein. C'est même pas la peine d'avancer. Notre Père ne désire pas de bons esclaves à son service. Mais notre bon Père désire des enfants qu'il aime. Et ce que nous sommes, ce que tu es, ne change pas. Quand tu t'es converti, Dieu a dit, c'est mon fils, c'est ma fille. Ce n'est pas une conversion à une religion, hein? C'est une conversion à lui. C'est ainsi que nous pouvons être libérés de cet état d'esclavage qui peut-être nous tient dans la haine ou dans la tiédeur, ou peut-être nous tient dans le mensonge. Il désire que tu le vois comme un père et non comme un maître. Et ça, c'était le problème des deux fils dans la parabole du fils prodigue. L'un pensait que son père était trop dur, trop carré, je vais quitter la maison. Et l'autre disait, mais moi j'ai tout fait, tu ne m'as jamais regardé. Il pensait que son père était un maître qui allait l'apprécier sur ce qu'il allait faire. Tous deux étaient ses fils. Alors en conclusion, voilà où se trouve le secret pour ne pas tomber. J'aime bien cette image. Voilà ce que fait l'esclave. Il prend toutes les paroles du Seigneur et il essaie de vivre avec. C'est peut-être ton cas, hein? Moi, quand j'étais jeune, j'allais à l'église, j'ai dit, waouh, je vais rentrer à la maison, je vais faire ceci, cela, je vais mettre en pratique ce qu'il dit. Hein? Lundi matin, 8h, déjà, hein? On est boosté, on est content, et on met, dans sa tête, on met des choses, hein? Eh bien, amuse-toi. Mets toutes les paroles de Jésus en pratique. C'est ce qu'il nous demande pourtant. Mais il y a une manière de faire. Quelle est cette manière de faire? Dieu t'aime. Voilà. Dieu t'aime, on l'a chanté ce matin. J'espère que tu l'as chanté de tout cœur. Par-dessus tout. Oh. Quand tu ne vas pas, quand tu es troublé, quand tu es inquiet, quand tu es tendu, il y a une bonne chose. Seigneur, toi tu m'aimes. Quand Jésus a revu Pierre, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ah, tu sais Pierre, viens. Tu sais comment tu peux être un bon prédicateur, Pierre? Je vais t'expliquer. Il n'a pas dit ça, non? Il lui a dit, Pierre, es-tu prêt à mourir pour moi? Non. Maintenant, Pierre, tu sauras qu'il faut des fois la fermer. Non. La prochaine fois, tu ne feras pas ce que tu as fait là. Non. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Pierre, m'aimes-tu? Oh. Notre monde ne pourra jamais contenir la violence par des représailles ou par de la violence, ou on ne sait quoi, sans fin et sans fin. Vous savez, au Liban, il y a toute une génération qui a connu la guerre et qui dit à la jeune génération, laissez tomber les armes. Ce n'est pas une réponse à la violence. La réponse, elle est dans le Seigneur. M'aimes-tu? Nous l'aimons. Pourquoi? Parce que lui nous a aimés le premier. Que dit Romains 5:5? Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tu n'es plus seul. Tu n'as jamais été seul. Et quand tu t'es converti, cet amour donné par le Seigneur, il n'y reviendra plus jamais. On l'a vu. Juste, tu peux dire ce Dieu majestueux, Maître de l'univers, éternel, il est venu pour te dire juste ces trois mots. Je t'aime. Et il a prouvé. Il a vraiment prouvé. Dieu t'a connu le premier. Il t'a choisi. Il t'a adopté. Il t'a justifié. Et ce qu'il veut, c'est te donner son amour absolu. Alors, cet amour éternel est une garantie sans faille. Ce sera mes derniers mots. quand les choses peut-être sont secouées, tu pourras dire, je suis sauvé parce qu'il m'aime. Je suis en paix parce qu'il m'aime. Je suis porté parce qu'il m'aime. Je suis gardé parce qu'il m'aime. Et même si les éléments se déchaînent, je suis à lui parce qu'il m'aime. C'est une assurance que donne le Saint-Esprit dans notre fort intérieur. Et ça, mon frère, ma sœur, c'est la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée. Que son nom soit béni. Amen.